analyse, opinion et entrevue. Sur rbds.ca, bienvenue à l'émission Les Gérants d'Estrade. Et maintenant, voici celui qui n'a pas peur de ses opinions, votre animateur, Simon Smerica.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition spéciale et allongée des Gérants d'Estrade. Autant en 2004 avec Ovechkin et en 2005 avec Crosby, étaient des repêchages sans mystère ce qui a trait au premier choix au total, autant cette année, 3 ou 4 joueurs aspirent à cette position. Celui qui a une longueur d'avance est le défenseur Eric Johnson. Êtes-vous prêts pour cette version spéciale allongée des Gérants d'Estrade? Nous, on l'est. Américain Eric Johnson a de très bonnes chances d'être le choix numéro 1 au repêchage de cette année. Et c'est justement ce qu'on va analyser aujourd'hui à l'émission Les Gérants d'Estrade, édition spéciale repêchage de la Ligue nationale de hockey 2006. Et pour commencer, introduisons notre invité d'aujourd'hui.
And now, here's Maxime Chevalier.
Bonjour Maxime.
Bonjour Simon.
Ça va bien?
Très bien, et toi?
Oh oui, et si tu me le permets tout de suite, parce qu'on a beaucoup de matériel aujourd'hui, on va passer aux besoins des équipes, avec les 10 premières équipes qui vont sélectionner au repêchage, et aussi on va voir le Canadien de Montréal qui repêche au 16e rang. On va commencer immédiatement avec les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, moi personnellement, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Ils ont tellement de besoins. En premier lieu, pour moi, je pense qu'ils ont besoin surtout en attaque. Leur premier scoreur, ça reste Scott Young, qui a marqué un peu plus de 40 points et qui a 39 ans. Donc, d'après moi, les besoins immédiats sont vraiment au niveau de l'attaque.
Effectivement, Simon, les Blues de Saint-Louis qui ont des discutés en attaque, comme tu disais, là, Scott Young à 40 points puis 39 ans, là, c'est pas la mer à boire. Malgré que les Blues se sont départis de Chris Pronger l'été dernier, puis bon, en Eric Johnson, on pourrait retrouver quand même un défenseur solide pour les 15 prochaines années. Là.
Mais malgré que la défensive de Saint-Louis est déjà pas mal stable, on a rien qu'à nommer les Barry Jackman, les Christian Backman, Dennis Whiteman, qui sont déjà comme pas mal le noyau des défenseurs. Est-ce que c'est vraiment un besoin avec Eric Johnson? Je veux bien croire que c'est le prospect numéro 1. Ils ont besoin de gardiens de but. Ils sont pognés avec Patrick Lalime qui a eu une saison catastrophique. En attaque, leur seul joueur dominant, c'est Keith Tkachuk, puis a été blessé comme d'habitude pour toute la saison. Je veux dire, la seule bonne nouvelle pour Saint-Louis, c'est qu'ils ne peuvent pas faire pire, là.
T'as tout à fait raison, Simon. Justement, en partant avec l'idée qu'on a un besoin en attaque à Saint-Louis, ils pourraient créer une surprise en repêchant Jordan Stallman. Pas nécessairement une surprise, mais ils pourraient combler un bon besoin à l'attaque.
On peut continuer aussi au niveau des défenseurs. Je sais pas comment j'ai pu faire pour manquer ça. Ils ont Eric Brewer.
Oui, à date, c'est le plus solide dans ceux que tu m'as parlé.
Puis Jeff Wiwitka, qui s'est développé cette saison. On l'a pu le voir un petit peu, mais malgré que Saint-Louis, on les a pas beaucoup vus.
Les Blues de Saint-Louis s'ennuient du pauvre Caron, je crois.
Oui, c'était des belles années. Je pense qu'ils s'ennuient surtout de Adam Oates et de Brett Hull à l'époque.
Un champ de paix prolifique, ça, Simon.
Ce qui peut aider justement Saint-Louis, c'est qu'ils ont deux choix au pêchage. Deux premiers choix, oui, en première ronde. Ils ont aussi le 27e. Donc, la reconstruction commence cette année. Il allait avec Eric Johnson. Oui, c'est un joueur de futur joueur de concession qui va être là pour les 20 prochaines années, assurément. Mais on commence-tu par la défense? De toute manière, on peut pas y aller avec un gardien de but. Les gardiens de but, je pense que c'est Jonathan Bernier qui est à peu près classé 12 ou 13e au total.
Ouais, il y a un Suédois ou un Finlandais, c'est faut filer avant Bernier, je pense.
En deuxième position, les Pingouins de Pittsburgh.
Oui, effectivement, Simon, les Pingouins qui repêchent au deuxième rang cette année. Être à la place de Richie Rowe, le DG de Pittsburgh, moi je souhaiterais quasiment que les Blues choisissent Jordan Staal. Je vais m'expliquer pourquoi. Bon, on a juste à penser à Crosby, on a pensé à Malkin en avant. Bon, écoute, les Pingouins qui seront pas à plein en attaque. Avec un Eric Johnson à la ligne bleue, là, ça serait quand même une puissance, là. les Pingouins, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que les Pingouins de Pittsburgh, c'est l'équipe la mieux placée jusqu'à maintenant dans la ligue. C'est vraiment fou.
Incroyable, hein?
Marc-André Fleury, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, présentement, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour des Pingouins de Pittsburgh. Oui, Jordan Staal, mais nous, on décide que Jordan Staal, ça serait l'attaquant numéro un. Bon, maintenant, seul l'es-tu? Est-ce que c'est Phil Kessel? Est-ce que c'est Jonathan Toews? Moi, personnellement, Jordan Staal...
Staal, il a une longueur d'avance.
D'après moi, oui. Maintenant, c'est un joueur de centre. Est-ce que tu peux t'imaginer maintenant trois lignes avec trois centres, avec Crosby, Malkin et Jonathan Staal dans deux ou trois ans?
Bonne question, pareil.
Bonne question.
Faudrait que les Pingouins aient assez de profondeur pour pouvoir fournir des joueurs talentueux là, au deuxième ou au troisième centre.
Maintenant, à repêcher Eric Johnson. Eric Johnson ne sera pas prêt là, au début de la saison là, de la Ligue nationale de hockey. Lui, il reste une autre année universitaire à faire.
Oui, OK, pour obtenir son diplôme.
C'est ça. Donc,
autrement, les Pingouins auraient eu vraiment besoin de lui quand même. Là.
C'est oui. Mais même là, avoir une autre saison catastrophique, même avec l'arrivée d'Evgeny Malkin cette année, ça assure quand même un autre choix de repêchage de qualité l'année prochaine.
Pittsburgh seront pas dans la cave cette année.
Non, ils seront pas dans la cave, ça c'est sûr. Mais d'après moi, ça va être juste pour les séries.
Ça va être juste pour les séries, comme tu dis.
Maintenant, la rumeur la plus persistante, elle vient la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline rêvent d'avoir Jordan Staal pour joindre son frère Eric Staal et auraient offert leur premier choix de l'année dernière, le troisième au total, Jack Johnson. Un défenseur américain aussi, format géant, mais mesquin un peu, vraiment mean comme on dit. Il a été suspendu cette année parce que, bon...
un joueur agressif.
Très agressif. Lui, on le compare vraiment à Scott Stevens.
Oh!
Les Hurricanes de Caroline voudraient donner justement ce joueur-là parce qu'ils s'attendent justement à ce que les Penguins de Pittsburgh veulent un défenseur.
Ben, ça suivrait notre logique, en fait.
Ben, je pense que si les Penguins veulent moindrement être équilibrés à un moment donné, ça serait justement d'aller chercher un défenseur. Je pense que c'est là que la décision va se prendre, ça va être au repêchage. Qu'est-ce qui va se passer avec les Blues de Saint-Louis? Vont-ils y aller avec Eric Johnson? Parce que s'ils prennent un attaquant, probablement que là, les Pingouins, eux autres vont prendre Eric Johnson.
Oui, ça règle la question à ce moment-là. Pas besoin de transiger avec les Hurricanes.
C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Dans les besoins immédiats, ça reste un défenseur physique qui aurait besoin, un centre qui est capable de gagner ses mises en jeu régulièrement, puis, à long terme, un nouvel aréna. Peut-être un déménagement à Québec, on sait jamais, mais les Pingouins de Pittsburgh, à mon avis, forment l'équipe d'avenir, l'équipe la mieux placée. Elle a plusieurs options devant elle, puis d'ici 5 ou 6 ans, ça va être incroyable, là, l'équipe qui va être dans les mains de l'entraîneur qui va être en poste, parce que ça, c'est un autre sujet. Michel Therrien, oui, il vient juste d'être engagé, mais ouais, il y a un nouveau boss.
C'est l'entraîneur de Greg Patrick. C'est lui qui l'avait nommé.
C'est ça. Fait que, bon, dans 4-5 ans, Therrien, va-tu être encore là?
Ça dépend des performances de l'équipe, en fait. Tu sais comment ça marche dans le milieu du hockey, Simon?
Ça va bien vite. Surtout quand t'es entraîneur. Fait que, toi, t'es directeur général de Pittsburgh. Tu le fais-tu à la transaction? Tu vas-tu chercher Staal ou tu l'échanges pour Jack Johnson?
Bonne question. Écoute, ça va dépendre vraiment, vraiment du choix des Blues de Saint-Louis. Entre Jack Johnson, le troisième choix des Hurricanes de l'an passé, ou Eric Johnson, qui va sûrement partir soit premier ou deuxième.
C'est juste que Jack Johnson aurait pu être le premier. Bon, ben, c'est juste qu'en avant, il y avait un Sidney Crosby, puis en avant, il avait décidé de choisir Bobby Ryan.
Oui, quand t'as parlé de Jack Johnson tantôt, Simon, puis tu l'as comparé à Kevin Steven, je me suis mis à rêver. Là. Si moi, j'étais directeur général des Pingouins, je serais peut-être porté là, à acquérir Staal pour ensuite transiger avec les Hurricanes.
Ah, oh, mais ça risque de se faire justement au repêchage.
Oui, je sais, mais...
Combien nombre de transactions qui ont lieu justement dans les 15 minutes où ce que l'équipe a le temps de choisir?
Oui, on a déjà vu ça par le passé, là. Pas juste des petites transactions et des coups d'éclat. Ce qui est important de retenir, c'est que Jack Johnson, bon, étant donné qu'il a été repêché l'an passé, pourrait possiblement aider les Pingouins plus rapidement que Eric Johnson. Puis comme tu as dit tantôt, si on le compare à Kevin Steven, Parce que depuis que Steven est parti, là, OK, on parle des Brian McCabe, on parle des Ed Jovanovski, mais on s'entend, Kevin Steven était dans la classe à Raymond Bourque, puis depuis ce temps-là, il n'y a pas
de défenseur. Ah oui, Jack Johnson, c'est un défenseur vraiment agressif. Là.
Ah, ça, ça vend des étiquettes, ça.
Ah ben, surtout avec des Malkin, des Crosby, quand Fleury va être vraiment à maturité, parce que c'est ça qui va être le plus long, là, c'est de pouvoir mettre à maturité. Puis oublie pas, au repêchage de 2002, quand ça a été le premier choix overall, de Marc-André Fleury. Qui a été le deuxième? Question piège, comme ça, vite, vite.
Mon Dieu. Ma mémoire m'a fait défaut.
Eric Staal.
Ah.
Fait que, faut vraiment attendre avec Marc-André Fleury, savoir. C'est pas un mauvais choix jusqu'à maintenant. Non,
ils ont pas de défensive, puis ils tiennent quand même tout le temps un club dans le match. Là.
C'est ça. Faut juste attendre qu'il soit à maturité. Un gardien de but, c'est toujours long. J'en connais pas beaucoup qui ont été vraiment dominants à 18 ans.
Non, c'est rare pour un gardien. T'as tout à fait raison.
À part que si tu t'appelles Mike Milbury, puis tu mets tout de suite Rick DiPietro. Pauvre DiPietro. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. On va passer immédiatement à l'équipe numéro 3, les Blackhawks de Chicago.
Oui, les pauvres petits Blackhawks à Chicago, ils s'ennuient de Jeremy Roenick, Simon. Bon, écoute, Johnson qui part en premier ou Staal. Le numéro 3, il reste quoi? Il reste Phil Kessel ou Jonathan Toews. Savoir qu'est-ce que les Blackhawks ont besoin. Ils ont besoin de renfort à ligne bleue. Ou plus un joueur à caractère offensif vraiment spectaculaire. À ce moment-là, on pourrait vraiment penser à Phil Kessel.
On va oublier défenseur pour les Blackhawks de Chicago. En 2003, ils ont repêché Brent Seabrook. En 2002, Duncan Keith. Ils ont Nicolas Cabiboulin dans les buts. Malgré que ça pourrait être un besoin ça à long terme, Nicolas Cabiboulin qui est passé 30 ans. Ce qu'ils ont vraiment de besoin, c'est des buts. Ils ont besoin de vendre des tickets. Ils ont besoin d'un joueur spectaculaire. Moi, j'irais probablement avec Niklas Backstrom. Si, tantôt on en parlait, il comparait un peu à Peter Forsberg. T'as besoin d'un joueur qui est capable d'aller jouer dans les deux sens de la patinoire, qui va être physique, qui va aller chercher les rondelles dans les coins de patinoire. Cette année, c'est pas une très grande cuvée. Tu n'as pas de Ovechkin qui peut sortir tout de suite.
Rappelle-toi, Simon, du tournoi que Phil Kessel a eu l'année passée avec contre Crosby, en fait. Lui, il jouait pour les États-Unis. Puis, on peut dire que c'est à peu près le seul joueur avec Bergeron, mais dans l'équipe du Canada, qui avait comme tenu tête un peu à Kessel là, au classement général des pointeurs.
Mais Kessel qui est reconnu un petit peu aussi comme un train de bottine un peu. Là. Fait que t'as besoin. Parce que tu peux-tu me nommer trois attaquants à Chicago?
En ce moment, là?
Ouais.
À main levée, non.
Bon, ben c'est ça, c'est que bon, il y a Cal Calder, qui est après le plus connu.
Ouh.
Fait que Éric Dazé qui est blessé, qui parle de retraite présentement à 30 ans. T'as besoin d'un joueur, tu sais, solide, pas nécessairement dominant, puisque de toute façon, il y en a pas vraiment des très dominants, mais Niklas Backstrom, c'est le packaging d'après moi.
Pas tout à fait d'accord avec toi. En tout cas.
Ben, comme tu parlais tantôt de Phil Kessel, ça reste le joueur qui était comparé à Jeremy Roenick. On veut-tu ramener des airs de Roenick un peu? D'ailleurs, il y a une autre rumeur qui est sortie cette semaine de quoi? Que Jeremy Roenick voudrait revenir à Chicago.
Ça serait bon pour le club.
Oui.
En fait, ça fait 2-3 ans que les Blackhawks évoluent dans la ligue, mais qu'on n'entend pas vraiment parler. C'est comme un...
C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un club qui semble complètement anonyme, moi, à mes oreilles. Les Blackhawks de Chicago, on n'entend pas parler, que ce soit en bien ou en mal. Ça semble être mort.
Je veux dire, les Capitals de Washington, c'est à peu près le même style de club, mais cette année, avec Ovechkin, on voyait l'uniforme des Capitals à tous les, à chaque bulletin sportif, on voyait un résumé des buts spectaculaires, puis on avait la face à Ovechkin qui tirait à langue. Puis bon, ça, c'est bon pour la visibilité de l'équipe, c'est bon pour la ville, c'est bon pour le club, en fait. À Chicago, on s'ennuie de Roenick, comme tu dis, Simon.
Malgré que ramener Jeremy Roenick, repêcher Phil Kessel, comme tu dis, qui est américain, Jeremy Roenick, qui est
également,
américain,
ouais.
Pourrait probablement le prendre sur son aile.
Servir de mentor.
Oui, ça pourrait être un bon vétéran qui voudrait... Est-ce que d'abord...
Montrer la bonne éthique de travail à Kessel.
Mais est-ce que Jeremy Roenick est un bon vétéran? Il a mauvaise réputation.
Il a mauvaise réputation, mais là... Étant conscient de tes défauts, puis si tu veux revenir, puis bon, il faut que tu montes patte blanche si on veut, là, je pense que Roenick a compris là, avec le temps. Là. Phil Kessel l'an passé, qui bon a pas joué beaucoup, en fait, seulement 39 matchs. Là-dessus, il a 18 buts, 33 passes, pour un total de 51 points. Puis 189 livre, comme tu disais, là, faudrait juste qu'un vétéran il montre vraiment comment fonctionner l'Union nationale, puis bon, lui faire réaliser qu'il y a tous les outils potentiels pour pouvoir vraiment être une grande vedette, mais juste mettre un peu d'effort soutenu.
Donc encore là, Chicago a encore des belles options devant eux, tout dépendamment des choix encore de Saint-Louis et de Pittsburgh. Assurément, dans mon esprit à moi, il ne fait aucun doute que Jordan Staal, s'il est en numéro 3, encore disponible, il part là.
Ça, c'est sûr, Simon, mais je pense pas que Staal va sortir troisième. C'est vraiment entre Staal et Johnson, là, à savoir Saint-Louis ce que les Blues vont faire. Les Capitals de Washington repêchent cette année au quatrième rang.
Encore une fois, les Capitals qui choisissent quand même très haut, sauf l'année dernière, qui n'ont pas été vraiment... très gâté, en fait, choix au pêchage. Bref, l'année dernière, il avait repêché au 14e rang. Ton analyse des Capitals de Washington, c'est quand même maintenant?
Ben écoute, des besoins dans les buts, des besoins en attaque pour pouvoir offrir un peu de soutien à Ovechkin. C'est bien beau, Ovechkin, il est très puissant, dominant, mais bon, le pauvre petit gars, il est tout seul. Il est vraiment tout seul. À défense, les Capitals, t'es un petit peu plus renseigné que moi, Simon, à Washington, en défense.
Ben là, c'est ça. Il y a présentement Brandon Witt, il se faisait âger, il voulait l'échanger. Ils ont besoin d'un défenseur physique, de joueurs autant en attaque qu'en défense très physique. On peut nommer que des noms comme Zeno Chara comme exemple, et ou un Brandon Morrow, ces joueurs de type-là qui auraient plus de besoins présentement à Washington.
Pour Chara, on oublie ça. Washington n'a pas vraiment le marché pour pouvoir payer un gars comme Chara. Déjà qu'ils ont Ovechkin là, qui va faire sauter à la banque une couple d'années.
Olaf Kolzig arrive à 36 ans.
Olaf Kolzig, oui. C'est la date d'expiration est vraiment...
oui, à 36 ans. Il n'a pas voulu être échangé. Il a préféré terminer sa carrière à Washington. Les besoins à part de ça, est-ce que tu peux me nommer le joueur de centre qui joue avec Ovechkin cette année?
Le joueur de centre qui joue avec Ovechkin cette année, malheureusement...
Ben c'est ça. Alex Ovechkin, présentement, a besoin d'un passeur. Il faisait pratiquement tout ça. C'était le joueur marqué, le joueur que tu pouvais pratiquement mettre deux joueurs...
Je t'arrête tout de suite, Simon. Je viens d'avoir une vision. Moi, être le DG des Capitals de Washington, pense que je repêcherais Derek Brassard.
Oh, Derek Brassard. Si on regarde la fiche de Derek Brassard, tantôt, on parlait d'un patineur explosif.
Un centre. Écoute,
capable de marquer.
Ouf, ça serait tellement bon pour sa carrière à lui.
S'il est aussi explosif qu'on peut penser à ce moment-là, tu peux t'imaginer avec Ovechkin, très peu de clubs pourraient suivre la cadence.
Très peu de clubs, tu dis, Simon?
Mais ça prendrait combien de temps à Brassard d'être prêt pour la Ligue nationale?
2 ans max.
2 ans max? Est-ce que Brassard, pour toi, dans ton esprit, peut alimenter suffisamment Ovechkin? Parce qu'on peut juste penser qu'il jouait avec la tendresse cette année avec Drummondville. Puis la tendresse, il n'a pas pété le feu non plus.
Ouais, mais la tendresse a été, je pense, affectée un peu là, par son camp exceptionnel avec le Canadien. Puis le fait qu'il était bon, laissé de côté vraiment. Lui, il pensait. Parce qu'écoute, il a brûlé le camp là, avec le Canadien, Guillaume.
Oui. Joueur américain, capitale américaine. Toi, t'avais mis Kessel 3e. Moi, je mets Kessel ici en 4e position avec Washington. On a besoin d'un joueur offensif, un patineur, un joueur qui va vouloir se battre pour être en sa première ligne. Puis la vitesse d'Ovechkin, justement, Kessel aura pas le choix de fournir en fait d'effort.
Ah, tantôt, tu parlais d'éthique de travail. On parlait, de savoir entourer Kessel à Chicago. Bon, c'est un bon point que tu apportes là, Simon. Si jamais Kessel est encore disponible, Washington pourrait en faire son choix à ce moment-là. Parce qu'avoir évolué un Ovechkin qui met du cœur à chaque présence, Kessel, il aurait pas le choix de vouloir suivre puis mettre un peu du sien.
Non, parce que s'il suit pas au niveau de la vitesse, à ce moment-là, Ovechkin va faire mal paraître Kessel.
Ouais. Puis Kessel m'a l'air d'un joueur quand même assez orgueilleux. Là.
Tantôt, on parlait qu'il ressemblait à Jeremy Roenick. Si il fait juste atteindre sensiblement les mêmes standards, un Roenick avec...
joueur de caractère.
Ça peut être... Puis Ovechkin, on connaît tout son enthousiasme, puis le côté intensité qu'il met à chaque présence, comme tu as dit tantôt. D'après moi, Phil Kessel va aboutir à Washington.
Ouais, ça serait une belle option. À ce moment-là, on garde Derek Brassard disponible pour le Canadien, éventuellement.
Ouais, il ne se rendra pas en 16e
non,
position.
Non, malheureusement.
Passons tout de suite à la 5e position, les Bruins de Boston.
Cette année, les Bruins de Boston qui repêchent au 5e cinquième rang. Écoute, ça dépend toujours des joueurs qui sont repêchés avant le cinquième rang. Exemple, si un Backstrom est encore disponible ou un Kessel est encore disponible, c'est jamais, là, les Blues pourraient bouger.
Qui veut jouer présentement à Boston? Moi, j'en aurais long à vomir sur les Bruins de Boston. J'ai été longtemps dans mon enfance un partisan des Bruins de Boston. Puis les Bruins de Boston...
À l'époque de Cam Neely, Raymond Bourque,
Adam Oates,
ben oui.
Alan Freddy. Avec, présentement, la gestion qu'il y a à Boston, où ce qu'ils passent leur temps à se débarrasser de leurs bons joueurs, Samsonov parti, Thornton parti, il reste tout ce qui reste présentement, c'est Patrice Bergeron,
heureusement.
Zamdov, puis il cherche à s'en départir. Fait que, par où tu veux commencer? Dans les buts, ils sont quand même bien nantis, les Bruins de Boston. On a découvert Anu Toivonen, on a découvert Tim Thomas, ils ont déjà Andrew Raycroft. Fait que dans les buts, c'est peut-être la seule position où ce qu'ils peuvent être solides. D'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs qui concernent Andrew Raycroft. Par où commencer? Ils n'auront pas le choix d'y aller avec le meilleur athlète disponible. C'est quoi les besoins? Maintenant,
Ben, ils ont besoin un peu de tout, comme tu disais, Simon, à part peut-être au niveau des gardiens de but. Est-ce que les Bruins vont aller avec un défenseur, avec un allié, avec un centre? Bergeron, lui, qui est à gauche.
Un centre, excuse-moi.
Écoute, à ce moment-là, on oublie Derek Brassard. Ici, selon le mock draft, j'aurais Jonathan Toews.
Jonathan Toews, c'est un autre centre. Est-ce qu'on va y aller avec deux lignes de centre, avec Patrice Bergeron et Jonathan Toews, qui est un joueur qui... dans les deux sens de la patinoire, sans avoir des statistiques spectaculaires pour autant, mais qui était un joueur quand même très fiable. Toi, de ton côté, tu avais probablement encore Niklas Backstrom de disponible.
Backstrom, je pense qu'il va finir avec, avec Washington.
Moi, mon choix, personnellement, ça devrait être Jonathan Toews.
Ben, comme tu dis, Simon, si les Blues veulent s'agréer deux belles lignes d'attaque pour les 10 prochaines années, avoir deux centres solides en Patrice Bergeron et Jonathan Toews, écoute, ça pourrait être une belle option.
Passons immédiatement à la sixième position, les Blue Jackets de Columbus.
Oui. Effectivement, les Blue Jackets de Columbus qui repêchent au sixième rang, écoute, avec Nash, Zverev, écoute, ils ont besoin, les Blue Jackets, ils auraient besoin d'un gardien de but, ils auraient besoin de défenseurs solides.
Ils ont déjà Marc Denis.
Pascal
Leclerc.
Oui, peut-être plus Leclerc, là, Denis, il se fait vieux quand même. Comme tu disais tantôt, un gardien de but, tu le repêches, mettons, en 2006, mais il sera pas disponible à jouer avec le grand club avant 2008-2009. Mais toujours plus de temps un gardien à se développer qu'un joueur d'avant.
Mais les défenseurs, il n'y en a pas cette année. C'est pas la manne, en fait, de défenseurs cette année. Dans le cas des Blue Jackets de Columbus, ils n'auront pas beaucoup le choix d'y aller avec le meilleur athlète qui risque d'être encore une fois un attaquant. Et dans ce cas-ci, si tu considères qu'ils ont bon Rick Nash, Zverev, ils n'auront pas beaucoup le choix d'y aller avec un Derek Brassard. On est toujours disponible ici, Derek Brassard.
Oui, effectivement, Simon. J'espère pas, pauvre petit Derek. On va finir à Columbus.
Mais Brassard, ce qu'il y a comparativement aux autres, c'est la vitesse. Mueller, tantôt, on a dit qu'il n'en avait pas. C'est un joueur opportuniste, oui, intelligent, mais brassant la vitesse. Puis, selon plusieurs éclaireurs, il peut marquer 40 buts dans la Ligue nationale. Okay.
Hey, ça, c'est pas peu dire, Simon. Là. 40 buts dans la Ligue nationale. Là.
Donc, j'y vais avec Derek Brassard.
Je te seconde.
Tu me secondes. Excellent. On s'entend sur cela. On va aller tout de suite avec la septième position, les médiocres Islanders de New York.
Effectivement, à New York, les Islanders sont vraiment champions quand c'est le temps de dilapider du talent. Brian McCabe, au revoir. Zdeno O'Chara, au revoir. T'en as d'autres, Simon?
Roberto Luongo. Olli Jokinen, Wade Redden.
Mon Dieu.
Kasper Aitis, Adrien Aucoin, Roman Amerlik, Kenny Janssen, Yanni Ninima, Brent Sapel, puis Brad Lukovic.
Tous des joueurs qui sont dominants ou presque dominants ailleurs qu'à New York.
Fait que si on peut juste s'imaginer, en fait, défenseur, qu'est-ce qu'il avait pu garder. On va juste répéter rapidement. Redden, McCabe, Chara, Kasper Aitis, Aucoin, Amerlik, Kenny Janssen. Je viens de t'en nommer juste le 7. Ça fait 7 superstars dans une équipe. Mais bon, c'est Mike Milbury. Mike Milbury, comment il va évaluer son équipe, je ne sais pas. Nous, notre évaluation des Islanders maintenant.
Ben moi, mon évaluation des Islanders, c'est pas tellement compliqué. Écoute, ils ont besoin un peu partout également, eux.
Ben d'abord, ils veulent changer
Yashin.
Alexis Yashin.
Ah, y a-t-il vraiment des équipes qui seraient intéressées à obtenir Yashin?
À 9 millions par année.
Mon Dieu.
Ben c'est le maximum. Donc, ça va être 8,3. Puis je pense qu'il reste encore quelque chose comme 5 ans son contrat.
Wesh.
C'est quoi la position qu'on a besoin? Alors, c'est pas dans les buts. Ils ont déjà Rick DiPietro. La défense, on suppose que ça peut être pas pire.
Ouais, quand t'as moyen de d'échanger un gars comme Chara, McCabe, etc.
Ben, c'est ça. Fait que sinon, ils vont juste l'échanger. Ensuite, donc, il faut que ce soit un attaquant.
Mmh, en principe.
Donc, moi, mon choix, ça va être l'ailier droit, Michael Frolik. Spectaculaire, rapide, packagé, génial. Partout ce qui a été au passé, dans les autres catégories, les éclaireurs le voyaient comme le choix numéro un pour le repêchage 2006. A connu une saison décevante cette saison, c'est pour ça qu'il a baissé. A été au camp d'évaluation physique de la Ligue nationale de hockey, a très bien fait. Donc, mon choix, ça reste toujours Michael Frolik. Qui pourrait être, en passant, le vol de ce repêchage-là. Ça pourrait être le joueur dominant du repêchage 2006.
Ben, pour ma part, Simon, encore une fois, je te seconde. Écoute, on a parlé tantôt, Frolik, qui, étant donné qu'il a connu une saison plutôt difficile cette année, il a perdu des points dans son classement au repêchage, mais en fait, ça reste quand même un excellent joueur, vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. Pourrait peut-être donner un peu bon d'action là, pour les partisans des Islanders. En même temps, mais donner goût à Yashin de jouer un peu. On sait pas.
On va passer immédiatement au choix numéro 8, les Coyotes de Phoenix.
Oui, effectivement, les Coyotes qui cette année repêchent au 8e rang. Bon, écoute, les besoins à Phoenix?
Ben, les besoins à Phoenix ont été privés des services de Ladislav Nagy pendant un certain temps. Je pense que ça va prendre un attaquant. En défense, ils sont quand même assez bien nantis. On pense à Paul Mara, Derek Morris, qui est aussi à Phoenix.
Donc, un attaquant spectaculaire qui pourrait faire carquer les yeux à Gretzky. De préférence, nord-américain.
Oui, ils ont déjà Shane Dunn. Donc, de toute manière, ça va être un centre qui va être de deuxième ligne. Moi, mon choix, ça va être James Shepherd du Cap-Breton. C'est lui que je disais tantôt, à les plus grands pieds avec des C15. Mais c'est un power forward, très rapide, excellente main. Pour le 8e au total, moi, mon choix pour les Coyotes de Phoenix, c'est James Shepherd. Et il est gauche.
Ben moi, Simon, pour pas dire que je suis en désaccord avec toi, être à la place des Coyotes de Phoenix, j'opterais pour un joueur de centre, disponible encore au 8e rang. Derek Brassard vient de sortir. Peter Mueller, est-il encore disponible, Simon?
Peter Mueller, moi, il est encore disponible sur ma liste.
Entre Brian Little et Peter Mueller.
Peter Mueller,
à 6'2", 200 livres, là. S'il pourrait être un petit peu plus rapide.
Ben, très opportuniste. Ça dépend avec qui tu le fais jouer. C'est un genre de joueur, d'après moi, Peter Mueller, qui peut ressembler un petit peu à un Mike Ribeiro. En plus gros, par exemple. Ouais, vraiment, Ribeiro fait 6 pieds. Mueller, on dit 6-2. Mike Ribeiro, pas très rapide, qui, je sais pas si tu le vois souvent,
protège bien la rondelle quand même, ralentit
le jeu.
Oui, attend que ses coéquipiers puissent se démarquer, puis bon, une excellente vision du jeu. Non, moi, c'est fou, là. À Phoenix, j'irais avec Brian Little. Brian Little, qui en 2005-2006 a obtenu, 109 points en 64 parties, 42 buts, 67 passes.
Impressionnant,
tu dis.
Passons maintenant au choix numéro 9, le Wild du Minnesota. Les besoins du Wild, c'est définitivement plus de buts. Toute l'attaque repose présentement sur Marianne Gaborik. Marianne Gaborik, on sait, ultra rapide, mais très agile, fin scoreur. Mais il n'y a personne pour jouer avec lui. Il y a le petit Bouchard, Todd White, puis c'est pas mal tout. D'ailleurs, une statistique très intéressante, si on prend Gaborik, Bouchard et Todd White, c'est 50% de la production offensive du Wild Minnesota l'année dernière. Donc, on y va avec un attaquant.
Kyle Okposo. Écoute, en 2005-2006, en 50 parties, 58 points, 27 buts, 31 passes, à 6 pieds, 195 livres. Un allié droit assez
originaire de Saint-Paul, Minnesota.
Mon Dieu, ça serait parfait.
ça donne...
Un joueur local.
Ça donne bien.
Oui, ici, on l'a au 11e rang. Donc, à toute fin pratique, il serait sûrement disponible.
Carl Opozo, qui son histoire est quand même particulière, il a arrêté de jouer au hockey pendant un certain nombre d'années pour se mettre au basketball et est revenu à échanger ses running shoes pour ses patins il y a seulement 4 ans.
Donc, c'est un athlète, il n'y a pas de doute là-dessus.
Non, il a des qualités athlétiques quand même bonnes.
Indéniable.
En 10e position, les Panthers de la Floride.
Oui, on connaît la force des Panthers devant le filet avec Roberto Luongo.
Mais Luongo qui devrait pas rester, d'après moi, le temps que le prochain joueur que les Panthers vont choisir va être avec l'équipe.
Oh, donc ça ouvre la porte. Peut-être que cette année, on aurait le premier gardien de but qui pourrait sortir au 10e rang.
Les Panthers de Floride qui pourraient forcément y aller probablement avec un gardien de but. Deux choix s'offrent à eux. Riku Ilinius de la Finlande et le jeune Jonathan Bernier.
Ben écoute, moi pour ma part, Simon, être dans les bottines du directeur général de la Floride, là, Mike Keenan. Écoute, avec Jonathan Bernier à 5'11", 180 livres, on pense à Roberto Luongo, qui est un gardien de but de format géant.
Oui.
Qui a été, écoute, les Panthers ont été bien servis par Roberto Luongo. Donc, si celui-ci change d'adresse, moi, je serais pas surpris de voir Keenan opter pour un autre gardien de but format géant. Donc,
Riku
Ilinius.
Oui, avec les nouveaux changements de la nouvelle Ligue nationale, l'équipement qui a été réduit, on peut juste voir les problèmes que José Théodore a connus cette saison. Lui avec, il fait 5 pieds 10, 5 pieds 11. Riku Ilinius à 6 pieds 3, 202 livres, rempli filet. Malgré qu'on ne le connaît pas beaucoup ici, on connaît pas ses déplacements, ses qualités athlétiques. Il est classé deuxième ou premier dans le International Scouting Service. Premier, je crois. Moi aussi, je pense que les Panthers de la Floride vont choisir Riku Ilinius. Maintenant, on va passer directement à la 16e position avec l'équipe qui nous intéresse présentement, le Canadien de Montréal. Quels sont, d'après toi, Maxime, les besoins du Canadien de Montréal?
Les besoins du Canadien, écoute, on sait tout de suite que l'an passé, ils ont repêché un gardien, Carey Price, qui vient de l'Ouest, là, un gardien quand même assez imposant, assez dominant. Cette année, il s'est fait damer le pion par Justin Pogge au championnat junior. Ben pour moi, être à la place de Bob Gainey, j'opterais pour un attaquant format géant qui peut être spectaculaire, s'il vous plaît.
Mais comment trouver un attaquant spectaculaire?
De format géant, tu vas me dire?
Ouais.
Écoute, ça existe. On parle des deux stars. On parle de d'Éric Brassard, qui est pas format géant, non, mais à 6 pieds.
Donc, quand tu même... t'entrevois une transaction, toi. Parce qu'en 16e position, il faut que tu fasses une transaction.
Pas nécessairement, Simon. Ben, écoute.
Présentement, il y a une rumeur avec le Canadien de Montréal.
Allons-y, Simon.
Et ça n'implique pas une amélioration de choix. On parle de céder un choix. Qui serait David Abisher avec le choix 16e au total du repêchage.
Pour aller chercher qui?
Martin Saint-Louis. Martin, oublie pas, Tampa Bay pourrait choisir deux joueurs d'affilée parce qu'ils choisissent 15e au total.
Non, mais là, Simon, j'ai de la misère à rester sur ma chaise. Là. Écoute, des petits joueurs comme Sakou, comme Saint-Louis qui traîne un contrat de 5,4 millions par année, puis qu'il y a de la pression qu'il disait à Tampa Bay parce que là, il se sent obligé d'en donner pour l'argent que le propriétaire investit sur lui. T'imagines-tu la pression qu'il va avoir à Montréal? J'ai rien contre ce gars-là, j'ai absolument rien contre Martin Saint-Louis, j'aime son style de jeu, j'aime son caractère et tout. Je suis tanné des petits joueurs à Montréal. Là.
Mais c'est sûr que
que quand j'ai vu Guillaume Latendresse au camp l'année passée, j'en avais des frissons, Colin.
Ah, ben, il était comme plusieurs.
Mais non, mais il est du temps qu'on se réveille. Franchement, pourquoi amener un 5 et 8, 5 et 9, là?
Mais attends, là, c'est sûr que Bob Gainey, le joueur qui était visé, c'était Vincent Lecavalier.
Ben oui, mais là, on se rabat sur Saint-Louis par défaut parce que
Jay Feaster veut pas être le directeur général qui va être reconnu pour avoir échangé Vincent Lecavalier. Qui l'aura sorti de Tampa Bay.
Ouais, mais là, il y a déjà un directeur général qui a échangé Wayne Gretzky, là. C'est comme... À mon avis, là, Gainey ferait une grave erreur en amenant Saint-Louis. De toute façon, Saint-Louis a quoi, là? 32, 33 ans?
À peu près, ouais.
Écoute, on s'entend, il reste 2-3 bonnes années dans le top, là. Fait que pourquoi hypothéquer un choix au repêchage pour aller chercher un joueur qui est en fin de carrière?
Mais là, attends une minute, là. Moi, je trouve pas ça nécessairement bête. Martin Saint-Louis, ça reste un vétéran. Martin Saint-Louis, ça reste un joueur qui est quand même dominant, qui va apporter une production offensive quand même intéressante aux Canadiens. Si tu regardes la position du Canadien de Montréal présentement en 5e position, qui tu veux qu'il aille chercher? Et si tu veux t'améliorer au repêchage présentement, tu veux monter et aller chercher un Derek Brassard ou peu importe le nom, là, tu veux céder quoi? T'as rien à donner à une autre équipe.
Écoute, je suis prêt à laisser mon choix de repêchage, mais pour un joueur qui... Ouais.
Ah, ben, t'as quelque chose qui peut être intéressant, mais j'ai hâte de voir ta réponse. Ça te tente-tu d'avoir un centre de grand format qui a tout le potentiel pour produire?
Mais moi, la puce à l'oreille, Simon.
Ben, tantôt, on a parlé de Alexis Yashin.
Ah, wesh.
Que les Islanders de New York sont prêts à se départir. Et en plus, l'équipe qui est prête à prendre Alexis Yashin va se faire offrir gratuitement le choix 7e au total des Islanders de New York.
Le 7e choix cette année?
Cette année.
Donc, ça règle la question pour Derek Brassard. T'es obligé d'augmenter substantiellement ta masse salariale pour payer un train de botte.
Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à Montréal, est-ce que ça va être sans cesse les UV, ça va être Bob Gainick va se pointer du doigt.
Non, c'est pas bon. Ça va détruire l'esprit du club. On avait déjà un Zednik qui se traînait les bottes, puis Ribeiro à l'occasion, puis ça a tout pris pour que le club se relève. Non.
Donc, en 16e position, il n'y a pas vraiment d'attaquant qui, moi, m'intéresse beaucoup. En 16e position, il y a certains défenseurs qui peuvent être intéressants. Des deuxième ou troisième meilleurs défenseurs jusqu'à maintenant qui n'auront pas été choisis.
Moi, Simon, je t'arrête tout de suite. Moi, j'ai découvert un allié droit du nom de Chris Stewart qui jouait à Kingston l'an passé. Écoutez, à 6 pieds, 227 livres. L'an passé, le monsieur Stewart en question a obtenu en 62 parties, il a marqué 87 points. Lui qui était à l'écart du jeu pour un an, pour des problèmes personnels, bon, qui a réglé. Un power forward, c'est quelqu'un qui apporte du caractère, c'est quelqu'un qui met de l'énergie, c'est comme un Steve Bégin avec deux fois plus de talent. Moi, c'est des joueurs comme ça que je suis prêt à payer pour aller voir au Centre Bell. J'ai rien contre Saint-Louis, là, mais...
Chris Stewart, toi, t'as, c'est quoi tes mensurations? Moi, j'ai 6'1", 227.
Moi, c'est exact. C'est 6'1", 227. Ici, ça allait. J'avais 6 pieds 200 dans mon seconde. 6 pieds 227 livres.
Bon, c'est quand même. À 227 livres, ça commence à faire lourd pour un jeune de 18 ans. Chris Stewart, ses qualités principales sont son caractère, apparemment, qui est très apprécié des directeurs généraux.
C'est un joueur à tout faire, dans le fond, là.
Oui. Mais, j'ai un mais. Et ici, j'ai sous les yeux la mention d'un éclaireur qui indique qu'il a quitté temporairement la compétition en voyant la pression que son frère subissait dans la Ligue d'Ontario.
J'en ai parlé, des problèmes personnels qu'il a réglés, justement.
Quand on connaît un petit peu le cercle médiatique à Montréal, est-ce que Chris Stewart, c'est toujours ton candidat?
Ouais. Je pense pas, Simon. Mais là, ça, c'est un joueur à 17-18 ans. Là. Il a quitté le club à 17 ans parce qu'il y avait trop de pression. Là. Mais si le club l'a repris, là, c'est parce que le gars, il a des qualités quand même. Là. On s'entend, c'est un élément assez important. Là. De toute façon, on a regardé sa fiche. Là, en 62 parties, 87 points, dont 37 buts. Là.
Moi, personnellement, j'y vais avec un défenseur. Un défenseur, quand on connaît la valeur que ça a présentement dans le nouveau style de la Ligue nationale de hockey, deux noms qui me viennent à l'esprit. Il y a l'Américain Nigel Williams, mais mon choix serait le Canadien Ty Wishart. Ty Wishart, 6 pieds 4, 214 livres, qui est grand, fort, rien de très de fancy, rien de pas de fantaisie, mais très stable. Pas spectaculaire, mais quelqu'un que tu sais exactement à quoi t'attendre match après match. Mon choix pour le Canadien, Ty Wishart.
Si on se fie à la liste des joueurs disponibles, au 16e rang, il reste plus grand choix. Si on veut avoir un défenseur à ce moment-là, je te seconde dans le choix de Ty Wishart. Écoute, on le compare à Eric Brewer, à 6 pieds 4, 214 livres. Ça fait mal quand ça te frappe dans le coin. Moi, personnellement, à mon avis, j'aurais aimé obtenir un joueur de talent, un joueur de 6 pieds 2, 6 pieds 3, quelqu'un qui est capable de vraiment bouger le puck rapidement avec une bonne vision de jeu. En fait, je pense au frère Eric Staal, mais c'est sûr, c'est rêvant en couleur. Là. Mais un joueur comparatif qu'on pourrait comparer à, justement, là, voyons, Jordan Staal. Ouais. Écoute, c'est illusoire de penser que Bob pourrait faire...
Pas une transaction, mais c'est justement, est-ce qu'il va falloir que le Canadien, comme tu disais tantôt, fasse une saison de misère pour pouvoir pêcher? Puis même l'année dernière, ils n'ont pas une saison de misère. Ça a été une loterie pour les 30 équipes pour le choix de Sidney Crosby. Ils ont repêché 5e. Tout le monde capotait pour enfin trouver un joueur dominant attaquant. Il avait la chance d'aller chercher Gilbert Brûlé, qui a fini par aboutir avec à Columbus.
Excuse-moi.
Puis on a pu le voir à Coupe Memorial, comment est-tu bon, Gilbert Brûlé? Ben non, on a été chercher un goaler encore, un gardien de but. T'es obligé de prendre les restants. Puis à Montréal, il y a pas, le public acceptera pas d'avoir une saison de misère pour pouvoir pêcher plus haut.
Non, ça c'est un fait. Là. Même moi qui souhaite avoir un bon choix de repêchage, j'aimerais pas ça que mon club finisse 28e.
L'autre joueur qui m'intéressait beaucoup, c'est Nigel Williams, un Américain 6 pieds 4, 226 livres, qu'on compare un peu à Chris Pronger, mais qui n'a pas le même sens de hockey, mais surtout manque d'agressivité. Quand t'as un 6 pieds 4, 226 livres, tu vas avoir quelque chose de plus agressif un peu, qui puisse l'utiliser son physique.
Ouais, c'est des pierres d'Agenais, là, on n'en veut plus à Montréal non plus.
C'est pour ça qu'on va y aller. Moi, j'y vais toujours avec Ty Wishart.
Bon point, Simon. Écoute, comme je disais précédemment, j'aurais voulu obtenir un joueur de format géant, explosif, un power forward, mais étant donné...
Ben, il y en a un disponible, là. On parle pas au repêchage, qui serait vraiment disponible. Todd Bertuzzi.
Non, mais je parle d'un joueur d'impact, là, pas un joueur fini. Là, quelqu'un
vraiment fini?
Non, mais tantôt, tu parlais de Patrice Bergeron. Là, on a parlé de bon Jordan Staal qui est disponible au repêchage, mais pas pour nous autres. Là, mais bon, tu sais, quelqu'un qui peut apporter quelque chose de significatif à ton club. Là. Todd Bertuzzi, excuse-moi, à part ben, des punitions. Pis,
6 pieds 5, 260 livres, ouais. A déjà été un marqueur de 90 points.
Oui, oui, mais ça c'est dans l'ancienne réalité.
Il a les capacités de pouvoir un ancien marquer tricheur. 40, 45 points. Comment un tricheur?
Un ancien tricheur, mais écoute, dans l'ancienne réalité de la Ligue nationale, c'était l'accrochage. Puis c'est sûr qu'à 260 livres, tu réussis à te démarquer là, contre des petits bouts qui pèsent 180. Je parlais tantôt de Chris Stewart là, qui, dans le fond, a vraiment des très bonnes statistiques. Là. À 227 livres pour 6 pieds 1, tu te trouvais un peu lourdeau. Là. Mais à 260 livres, ton Bertuzzi.
Non, j'ai jamais dit qu'il était trop lourdeau.
Moi, Bertuzzi, c'est un problème. La seule place où que non, je veux le voir, c'est sur une boîte de céréales, comme il a fait dans le temps. That's it. Donc, Simon, pour finir, je te seconde avec Ty Wishart. Puis ça fait une couple de semaines qu'on en parle, Simon, le choix du Canadien. Puis il me semble que Ty Wishart, ça avait été mon choix. Tu t'en rappelles-tu?
Oui, fiable comme un réparateur métal.
Fiable comme une laveuse métal, ils disent. À ce moment-là, bon, la fiabilité à Montréal, on aime ça. Joueur solide, rien à rajouter de plus, écoute.
C'est ce qui m'a fait à la partie édition repêchage 2006. On va passer maintenant au segment Shot Clock.
Simon Smirka and his guests are ready. Are you? Because it's time to beat the clock.
Allons-y, Simon, beat the clock.
Selon le site CNNmoney.com, les associations tentent de faire accepter les jeux vidéo comme sport aux prochains Jeux Olympiques. Est-ce une bonne idée?
C'est vraiment, vraiment une aberration. Là. Depuis quand les adeptes du jeu vidéo se considèrent les athlètes? Écoute, Simon, si adolescence et acné riment avec Olympique, alors on aura tout vu. Pour moi, ce serait simplement un manque de respect pour ceux qui s'entraînent pendant 4 ans dans le but ultime d'être présents aux Olympiques. Écoute, là, Xbox aux Olympiques égale unijambiste dans la NFL. C'est comme un non-sens, là.
À quand qu'on va pouvoir commencer à comparer J.C. Owen ou Carl Lewis, Andrew Brown, champion olympique du Miss Pac-Man? Non, mais c'est d'un ridicule qu'on s'amuse. J'ai de la misère à me contrôler. Je passe à autre chose. Suite à l'accident de moto de Ben Roethlisberger, devrait-on mettre des clauses spéciales dans les contrats?
Excellente question, Simon. Écoute, moi, je serais tenté de répondre oui. Dans la mesure où une équipe consent énormément d'argent à l'individu, qui en rapporte autant. Écoute, j'imagine juste la tête du propriétaire des Steelers à l'annonce de l'accident de son corps vedette. D'un autre côté, un joueur comme Big Ben n'en est pas à ses premiers sacrifices. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Les prédateurs de Nashville auraient-ils dû empêcher Hitler de conduire sa Ferrari pour aller à l'aréna? Canadien, devrait-il empêcher Kovalev de piloter un hélico? Ça, mes amis, ça s'appelle le destin.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, ça n'a rien à voir avec le destin. C'est juste commencer à réduire les risques. Quand on investit, quand on sait que tout l'investissement que les équipes mettent à pouvoir choisir des joueurs qui, comme tu l'as dit si bien, en rapporte autant sinon plus. C'est d'un ridicule consommé ça aussi de savoir qu'un joueur s'en va se promener en moto sport pas de casque. Au hockey, on voit ça, les joueurs n'ont pas le droit de faire de ski durant la saison ou encore des sports dangereux comme du parachutisme ou de la motocross. Ça devrait être la même chose dans ces cas-ci. Et c'est seulement pour pas seulement protéger l'équipe, mais le joueur aussi. Quelles sont tes attentes envers les Alouettes pour la saison 2006?
Ben écoute Simon, de toute évidence, cette année, les Alouettes forment encore une puissante formation. Avec l'acquisition d'un substitut solide au poste du corps, en Neil Green, plusieurs vétérans guéris. Écoute, nul doute que nos méchants moineaux pourront faire encore bonne figure cette année. Chaque année, Don Mathieu nous surprend avec une ou des cartes cachées. Sera-t-il encore nous surprendre cette année? Bonne question. Si les Alouettes peuvent avoir une bonne cohésion et un bon esprit d'équipe, leur profondeur pourrait les mener à la Coupe Grey.
Pour les Alouettes, pour moi, la plus grosse faiblesse, c'était justement un deuxième quart. Ça, il n'y a rien. Ça prenait pas la tête à Papineau savoir ça. Maintenant, ils ont la meilleure ligne à l'attaque de la Ligue. Ils ont un porteur de ballon aguerri en Edwards. Maintenant, le seul problème, c'est en défense, et il faut juste qu'ils arrêtent de changer de théorie à la défense. Quelle équipe a le plus et le moins impressionné à son premier match en Coupe du Monde?
Ah, pour moi, Simon, l'équipe qui m'a le plus déçu à son premier match, ça reste la France. Écoute, faire un match nul contre la Suisse, là, fallait le faire. Pour ce qui est de l'équipe qui m'a le plus impressionné, à son premier match, si tu m'aurais dit au deuxième match, j'aurais dit l'Argentine contre le Monténégro-Serbie, là, 6-0. Là. C'est comme si les Canadiens comptaient 19 buts en blanchissant le Royal du Minnesota. Mais là, je m'écarte un peu. Non, à leur premier match, pour moi, l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est les Tchèques, la République Tchèque, Simon.
Ouais, l'équipe qui m'a le plus déçu, c'est celle que j'avais favorisée pour remporter la Coupe du Monde, c'est les Anglais. L'Angleterre qui jouait contre le Paraguay s'en est tiré avec une victoire de 1-0, mais grâce à un but compté par l'adversaire. Mais c'est vraiment décevant quand on connaît toute la profondeur à l'attaque qu'ils ont. L'équipe qui m'a le plus impressionné, ça reste l'Australie. Contre le Japon, ils perdaient 1-0 et dans les 8 dernières minutes, ils ont marqué 3 buts de toute beauté. C'est l'équipe qui m'a le plus surpris. Claude Julien au New Jersey. Est-ce le meilleur choix que Lou Lamoriello pouvait faire?
Ben oui, Simon. Après le maire Burns et Robinson, on peut affirmer que Lamoriello est peut-être un fan de la philosophie du Canadien. Pour ma part, j'apprécie le geste du DG des Devils. Écoute, Claude Julien jouit d'une très bonne réputation auprès des joueurs. Il n'a pas vraiment eu la chance de faire valoir ses idées à Montréal. De toute façon, entre Ted Nolan et Pat Quinn, Claude Julien était la plus belle option. Sincèrement, bonne chance, Claude.
Je suis très surpris que Claude Julien puisse trouver du travail, surtout dans une organisation aussi prestigieuse que les Devils du New Jersey. Habituellement, les Québécois ont beaucoup de difficultés en tant qu'entraîneur de pouvoir se replacer les pieds, surtout quand on sait que pratiquement juste l'Avalanche du Colorado, grâce à Pierre Lacroix, et le Canadien de Montréal qui prennent une chance avec les Québécois. Prendre une chance où on a vraiment reconnu le talent de Claude Julien. D'après moi, je pense qu'on l'a vraiment reconnu. Que penser de la déclaration de Corey Stillman, des Hurricanes de la Caroline, qui a promis la victoire contre Edmonton?
Ben oui, Simon. Corey Stillman, qui dans la finale de la Coupe Stanley, s'amuse à jouer à Nostradamus. Ben oui, Mark Messier qui a déjà fait ça, puis ça a tourné en sa faveur. À savoir si les Oilers vont bien réagir à cette déclaration de Corey Nostradamus Stillman, nous allons voir. Moi, j'espère que les Oilers soient fouettés par cette déclaration et qu'ils renversent la vapeur pour la tenue d'un 7e match. De quoi fermer la trappe à Corey Stillman et aux Hurricanes.
Tout à fait d'accord avec toi, Maxime. Corey Stillman des Hurricanes de la Caroline a première victoire contre Edmonton, comme l'a fait Mark Messier avec les Rangers en 1994. Mais Mark Messier est une légende, tandis que Stillman est un joueur moyen, et je suis gentil. Mais il y en a-tu qui se prennent pour d'autres? Juste pour ça, j'espère qu'Edmonton va remporter la coupe pour voir Stillman pleurer. Quand tu es ordinaire, tu te prends pas pour une icône juste parce que t'as marqué 12 buts dans une série. Dans le fond, on se souvient peut-être de Paul Di Pietro qui jouait avec le CH en 93, mais c'est tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Au moins, Di Pietro ne s'est pas pris pour Maurice Richard pour autant. Alors, c'est ce qui met un terme à l'émission. Si vous voulez laisser des commentaires, soit à moi ou soit à Maxime, vous pouvez me rejoindre moi personnellement au smereka@rbds.ca, smereka, @rbds.ca.
Si vous avez un commentaire à formuler ou à laisser des informations, vous pouvez toujours me rejoindre au timaxacommercial@rbds.ca. Timax en un mot, timaxacommercial@rbds.ca. Je vous remercie.
Et en terminant, je vous invite tous à participer en grand nombre au forum. Le forum qui est disponible au site www.rbds.ca. Là-dessus, on vous laisse. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et à la semaine prochaine.
Au revoir.
See you next week for another show with Simon Smirka and his guests.